Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir le professeur Michel Godet. Michel Godet, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur notre antenne. Vous venez de faire paraître avec deux co-auteurs, Alain Lebob et Philippe Ratt, un collectif, La France des bonnes nouvelles, chez Odile Jacob, avec une introduction que je qualifierais de lumineuse de Michel Rocard. Bravo pour cette parution sur laquelle nous allons donc maintenant revenir. Alors, cher Michel, on vous connaît en tant que professeur au CNAM, au Centre National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire de prospective stratégique. Vous êtes aussi le fondateur du Cercle des entrepreneurs du futur, ce qui déjà donne un sens à toutes vos actions. On connaît aussi, bien entendu, vos talents d'auteur. Et notamment, vous avez publié Le Courage du Bon Sens. Toujours, c'est Odile Jacob, qui a fait l'objet de 3 éditions successives et dans lesquelles vous faisiez le diagnostic des problèmes de notre époque, notamment de ceux de la France, avec un diagnostic et des prescriptions appropriées. Vous avez aussi fait publier, toujours c'est Odile Jacob, je pense que c'était en 2010, Les bonnes nouvelles des conspirateurs, si je ne me trompe pas. Du futur, toujours.
Oui, enfin, les conspirateurs sont les entrepreneurs et les acteurs de terrain qui font bouger le monde où ils se trouvent.
Voilà, alors nous allons y revenir. Alors vous êtes par ailleurs un chroniqueur très recherché, très écouté par les grands médias nationaux, ne serait-ce que pour votre liberté de ton et la pertinence de vos analyses. Et vous démontrez par ailleurs, dans cet nouvel ouvrage, que vous êtes toujours sur cette même ligne, avec donc vos deux co-auteurs que je présente très très rapidement. L'un est Alain Lebob, ancien journaliste du Monde, et dit-on, un des plus fins connaisseurs des initiatives et des questions d'emploi. Et Philippe Ratt, qui lui est un normalien, et un jeune retraité, mais je précise actif, de l'UNESCO. Alors c'est à tous les trois que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage. Alors, une brève introduction et puis on va venir au cœur de votre sujet. La France des bonnes nouvelles est un livre d'économie, mais qui a choisi comme ligne de présenter des performances de chefs d'entreprise, d'ailleurs un petit peu atypiques par rapport à leur parcours. Mais comme le remarque Michel Rocard dans sa préface, sa force principale est d'être jamais ennuyeux et de porter à l'optimisme. Une lecture qui réconcilie, sinon avec la vie en général, du moins avec l'économie. Car par ces temps de rigueur, l'économie est ressentie comme un peu folle et les grands patrons comme complices, ce qui ne fait que confirmer, en quelque sorte, cette antinomie quasi culturelle entre les grandes entreprises et les salariés en France. Aussi, rappeler, comme c'est le cas dans cet ouvrage, à travers 18 histoires extraordinaires de succès d'entrepreneurs, que la réussite peut être à portée de main et que les vrais chefs d'entreprise sont les meilleurs agents d'un combat pour la sortie de crise peut apparaître comme une provocation. Mais c'est aussi œuvrer pour la réconciliation de la fonction patronale avec la société, car nul doute que le plus grand nombre des chefs d'entreprise est à cœur de retrouver la confiance des Français. Alors, Michel Godet, c'est, je pense, votre premier message, c'est d'essayer de dire, faites confiance aux entrepreneurs, ils sont capables de nous apporter des bonnes nouvelles.
Il n'y a pas qu'eux qui apportent des bonnes nouvelles, la preuve vous aussi d'ailleurs, aujourd'hui. Mais je ne serais pas aussi optimiste que vous sur mon audience dans les médias, car apporter des bonnes nouvelles à des médias qui par définition sont spécialisés dans les mauvaises nouvelles, comme on dit en anglais « bad news is good news », ce n'est pas tout à fait ce qui est plus prisé aujourd'hui. Et donc, je vais corriger ce point. Le deuxième point, vous avez gentiment évoqué le livre « Le courage du bon sens » et j'avais cru naïvement, naturellement, après presque 40 ans d'expérience professionnelle, un peu plus maintenant, mais à cette époque en 2007, qu'on pouvait échanger la France d'en haut. Il suffisait d'aller voir les dirigeants, leur dire voilà le diagnostic, voilà les prescriptions, et je les ai vérifiées, sont expérimentées, etc. Ça ne suffit pas. j'ai découvert à mes dépens en quelque sorte, c'est que finalement, à la tête de l'État, il y a beaucoup trop de gens qui se servent au lieu de servir et qui ont d'abord l'inquiétude de savoir ce qu'on va dire d'eux dans les médias et au journal du 20h ou dans les sondages, au lieu de travailler pour l'histoire et reconstruire le pays dans le sens qui lui donnerait un avenir un peu plus rose, sans donner de signe à la couleur plus que cela. Alors, je n'ai pas écrit « La France des mauvaises nouvelles » parce que ce serait plusieurs volumes. Et on les écrit tous les jours dans les médias. Mais « La France des bonnes nouvelles », c'est effectivement une France d'en bas. Et c'est le message important. C'est arrêtons de chercher des choses qu'on imagine à Bercy en regardant la France à la jumelle, hein, avec des gens qui sont jamais sortis des limites intérieures du périphérique ou de leurs écoles savantes. Et regardons ce qui se passe en bas, dans la France des territoires, des entrepreneurs, car partout, il y a des miracles. Il y a des endroits aujourd'hui où malgré la crise financière internationale, malgré la mondialisation, la concurrence des pays à bas salaire, etc., ou les évolutions technologiques, il y a des pays territoires en France où le taux de chômage, comme aux Pays-Bas ou comme en Autriche, est aussi à 5%. Et c'est ça les bonnes nouvelles. Et quand on regarde de plus près, qu'on prend un peu sa loupe, on découvre que très souvent ces réussites exemplaires sont liées à des facteurs qui trouvent leurs origines dans des handicaps qu'ont subi des individus, dans la capacité qu'ils ont eue non pas à baisser les bras, mais à réagir, à définir des projets à partir d'eux-mêmes, en s'appuyant sur des fratries, sur le lien social, dans leur environnement familial ou de territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des territoires, notamment toute la France du Grand Ouest, se portent très bien. Les gens vivent très heureux et d'ailleurs un des territoires exemplaires que j'évoque c'est la Mayenne. Un des territoires les plus pauvres de France en niveau de vie par habitant, 1,2 fois le SMIC, mais comme tout le monde est à ce niveau, personne ne s'en frustrait par rapport aux autres, et donc c'est là que le taux de fécondité est un des plus élevés, le deuxième derrière la Seine-Saint-Denis, comme je dis, mais pour d'autres raisons. Donc quand les gens sont heureux, quand il y a la qualité de vie, eh bien il y a le développement harmonieux des entreprises, il y a l'entrepreneuriat qui est favorisé, et donc c'est possible, mais ailleurs que dans les grandes mégalopoles.
C'est ça. Donc ce que vous dites, hein, ce que disait d'ailleurs un autre auteur qui parlait des problèmes de l'immobilier, c'est un petit peu oublier Paris. La France des bonnes nouvelles, elle est aussi en dehors de Paris.
Écoutez, malheureusement, moi-même je me sens depuis 40 ans exilé en Île-de-France, puisque je suis provincial d'origine et je suis né à Tours et je suis un homme de l'Ouest, disons. Et je trouve qu'aujourd'hui on peut très bien vivre bien mieux qu'à Paris, en étant à Angers, en étant à Nantes, dans toutes ces villes ou Tours, etc. Donc c'est possible, et arrêtons de faire croire que pour être branché sur la mondialisation, il faut être encombré dans les mégalopoles où il y a 300 km d'embouteillage urbain.
Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction, que à travers votre ouvrage, Le Courage du Bon Sens, vous êtes aperçu qu'en fait, c'était inutile de dire et de redire toujours la même chose, avec le risque de ne pas être entendu. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette forme un petit peu innovante de témoignage de la réalité d'entrepreneurs et de leur succès. Mais est-ce que c'est pas pour vous aussi une forme de fatalité de cette France qui demande des rapports, des experts, le rapport Gallois en est l'illustration, pour ensuite faire un déni de la réalité?
Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour le rapport Gallois. Et c'est bien qu'on fasse des rapports, au moins ça permet de redire des choses qu'on sait déjà et leur redonner une actualité. Au moins les médias, ça les attire de ce point de vue-là. Mais je voudrais donner un ou deux exemples, parce qu'autrement, voilà, on croirait que tout ça, c'est des mots. Deux exemples. La question des dépenses publiques. Bon, ben regardons ce qui se passe à Chartres. C'est pas très loin d'ici. À Chartres.
Et vous citez justement le cas de ce,
ben
ce
oui,
maire.
Jean-Pierre Gorge, député. Alors c'est un député maire, il se trouve qu'il est UMP, mais par hasard. D'accord. Il a pris le pouvoir contre un maire socialiste qui était là, un ancien ministre. Peu importe, on s'en fout des couleurs. Il a la compétence. Et c'est la compétence qui l'emporte sur l'appartenance. Et c'est un ancien du Crédit Agricole qui a été ingénieur système, qui a construit sa ville, qui sait calculer un taux d'actualisation. Et il a été élu, notamment avec le slogan qu'il baisserait les impôts locaux. C'est ce qu'il fait depuis 10 ans. En rénovant complètement toute l'agglomération, parce que maintenant c'est plus une ville, il est pas président de l'agglomération, 200 000 habitants, et il a complètement reconstruit la ville. Il va refaire la gare maintenant. Il a construit la mixité sociale. Il y a des logements à 3 000 euros le mètre carré. Dans les mêmes immeubles, on mélange toutes les couches sociales. Et ça, c'est possible.
Tout à fait. Mais Michel Godet, ce que vous dites en plus, c'est que ce monsieur, qui a des origines du Crédit Agricole que je ne peux que saluer, a en plus fait tout cela.
Il y a pas du bon dans le Crédit Agricole, même s'il y a du bon sens.
Mais il a fait tout ça avec des baisses d'impôts.
Absolument.
Alors, c'est quand même donc ce qui montre.
En lisant le livre, on verra l'histoire, mais ouais. Il explique notamment quand il est arrivé, il a commencé par arrêter le clientélisme qui sévit dans la plupart des villes et des circonscriptions où l'on crée des emplois, où on donne des subventions aux associations pour acheter des voix. Et donc, on fait du clientélisme. Vous supprimez ça, vous faites d'énormes économies. On cesse aussi d'avoir des services, des fonctionnaires locaux qui sont à 22 jours d'absentéisme, comme vous le savez, c'est les statistiques de la Cour des comptes. Et on crée n'est pas la peine d'avoir des jardiniers municipaux si on peut avoir appelé un service public d'entreprise qui rend le même service pour moins cher. Donc, on voit bien qu'on a un tas de réponses qui sont différentes. Je voudrais donner un autre exemple parce que
ça fait.
UMP,
il y en a 18,
charte,
hein, mais
un exemple. Non, mais le deuxième est important, c'est pour l'emploi. Aujourd'hui, on va lancer les emplois d'avenir qui vont être sans avenir pour des jeunes qui sont en échec scolaire, souvent issus des quartiers difficiles. Mais que ne suit-on pas l'exemple de Pierre Choux, qui est à Dijon, que j'évoque, qui depuis 40 ans, au départ, c'est un ancien animateur de rue, un curé de gauche, on pourrait dire, et s'occupe de loubars au départ et maintenant de jeunes en difficulté ou de moins jeunes, qui lui sont envoyés par Pôle emploi comme étant inemployables et qui le remet dans l'emploi marchand. Je précise bien, c'est pas des emplois subventionnés. Ça coûte 6 000 euros. Mais une fois pour toutes à la collectivité, au bout d'un an, ça rapportait deux fois plus que les 6 000 en prélèvement, en charge, etc. Donc c'est possible. Il demande qu'une chose, lui, c'est que il demandait ça aussi bien à Sapin aujourd'hui qu'hier à Xavier Bertrand, mais qu'on me permette de développer ce qui est dans 21 départements sur le plan national. On lui répond non, c'est pas possible, oui. Parce qu'on a des rapports, on a en gros, on a des tuyauteries avec les corps sociaux en place et on veut pas y toucher.
Alors, ce qui est frappant, et on le voit bien dans votre passion, illustration de votre ouvrage, c'est cette cohabitation, je dirais, entre ce discours sans tabou qui projette un regard presque impertinent sur la réalité de notre situation économique, et puis par ailleurs, une forme de foi chevillée au corps dans l'espérance, dans les hommes et dans l'avenir. Je voudrais simplement lire un petit passage de votre ouvrage qui montre un style extrêmement aéré et très plaisant. Ce nouveau défi est aussi une belle occasion de redonner du sens à une croissance qui en manquait singulièrement. En effet, la croissance passée s'est traduite par une formidable accumulation de biens et d'inégalités visibles, source de multiples frustrations. Plus de biens et moins de liens, plus d'injustices et de revendications, plus de gaspillage des ressources naturelles et humaines pour produire des flux au détriment des stocks patrimoniaux et environnementaux. Un des paradoxes salutaires pour les sociétés modernes en crise face aux mutations est précisément l'ampleur des défis à relever. Nous sommes plus seuls autour du banquet de la croissance planétaire et il va falloir nous remettre en cause pour survivre, nous adapter et participer pleinement à la construction du nouveau monde. Elle se fera sans nous, contre nous ou avec nous, tout dépendra de nos capacités à l'union autour des initiatives et des projets suscités par ces défis. Je crois que ce passage donne le ton complet de votre ouvrage. Je ne vais pas vous lâcher sans vous poser quelques questions.
Je suis pas prisonnier.
Quelques questions sur l'actualité, qui d'ailleurs recouvre une bonne partie de vos développements. Alors, compétitivité, rapport Gallois, vous en avez dit un tout petit mot tout à l'heure. Choc ou trajectoire, ça c'est un premier point. Sortie de crise, notre président nous a laissé entendre qu'il sentait des signes de sortie de crise européenne. Coût du travail, productivité, je vous cite page 42, j'ai noté quelque chose. Il n'empêche que ce qui fait avancer un bateau, ce n'est pas seulement la force déployée par ceux qui rament, mais aussi le nombre de rameurs. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de rameurs? Est-ce que vous avez l'impression que le nouveau gouvernement va multiplier les rameurs pour tirer notre pays du marasme dans lequel il se trouve?
Bon, écoutez, le problème de la compétitivité commence seulement à être connu. Il y a déjà un ou deux ans que le problème est sur la place publique, chez les économistes. Bon, on sait qu'en gros, depuis 2001, on a baissé notre coût du travail qui était de 10% inférieur à celui d'Allemagne, notre principal compétiteur, et il est devenu équivalent pour l'industrie à ce qu'il était en Allemagne, sauf que, comme en même temps notre qualité de produit ne s'est pas améliorée, eh bien, on a perdu des marchés. Et puis, comme en même temps aussi, le coût du travail dans les services est devenu 10% plus cher qu'en Allemagne. Et comme on oublie, et j'aurais ici le relevé, qu'on peut pas séparer les services de l'industrie, parce que l'avenir n'est ni au secondaire ni au tertiaire, mais au quaternaire. C'est-à-dire vous vendez des services qui incorporent des biens. Quand Michelin loue les pneus à l'usage, hein, il vend un service qui incorpore un bien. Et ça change complètement les choses. Donc, si on n'est pas compétitif sur les services, on n'est pas sur l'industrie. Alors, on se rend compte de cela, et que faire? On peut faire une dévaluation compétitive avec la TVA social, malheureusement, comme on n'est pas dans l'économie aujourd'hui, on est dans l'idéologie. C'est une proposition qui a été retrouvée par Sarko 3 mois avant les élections.
Ouais, trop tard.
Maintenant, ça devient une proposition politiquement incorrecte. Alors que c'est mieux que la CSG, qui au passage, la CSG appauvrit immédiatement les ménages et singulièrement les familles avec enfants, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans enfants, pas de retraite notamment, donc c'est toujours été sensible à ces questions, parce qu'il n'y a pas de quotient familial sur la CSG. Donc, la CSG, c'est moins bien que la TVA, et la TVA, j'ai toujours été pour, la TVA sociale, dans le courage du bon sens, oui, mais à condition de ne pas l'augmenter. Ce qu'il faudrait faire, c'est diminuer les dépenses publiques et affecter une partie des ressources de la TVA à la réduction des charges qui pèsent sur le travail dans les entreprises. Donc là, ils veulent l'augmenter. C'est mieux malgré tout que la CSG, ils le feront pas. Mais si on l'augmentait, si vous voulez faire Sarko, c'est parce que ça ne se répercute pas nécessairement sur les prix et ça a l'avantage de peser sur les importations aussi. Donc de taxer aussi les concurrents étrangers. Bon, il y a une troisième voie qui commence à peine ressortir depuis ce matin. Hein, c'est le lièvre a été levé. Moi, je disais ça presque en...
Les 39 heures.
Oui, c'est en disant, en gros, écoutez, c'est simple, un autre choc de compétitivité, c'est de faire travailler 39 pour être payé 35, ce qui serait un retour à la case départ. Hein. On était tombé dans un trou, on en sortirait. Hein, bon. Et ça sort d'une autre manière, maintenant, un peu. On a fait l'erreur de supprimer les heures supplémentaires non imposables. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans un pays où on n'encourage pas les fourmis, on pénalise les fourmis, et on encourage les cigales. Eh bien, je ne propose pas d'imposer le temps libre, mais je propose d'encourager ceux qui le travaillent plus que les autres.
Eh bien, c'était la passion et les convictions de Michel Godet, qui vient de faire paraître aux éditions Odile Jacob avec Alain Lebob et Philippe Rath, La France des bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles pour l'avenir de la France, de Michel Godet, un ouvrage de 313 pages pour 22 euros. Encore bravo et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne. À très bientôt, Michel.
Merci.